Actu SF, les podcasts.
Bien, bonjour. Nous allons commencer. J'ai l'impression de me trouver dans un roman de John Brunner, Tous à Zanzibar, Stand on Zanzibar. Je vous remercie donc d'être présent en grand nombre pour écouter nos invités, Laura Fernandez et Brandon Sanderson, autour d'une table ronde dont le sujet est « I want to believe », en français dans le texte, bien sûr. Nous allons donc en fait surtout parler de théorie du complot. « I want to believe, the truth is out there ». Ces expressions renvoient à la combinaison de deux phénomènes convergents. L'un, qui est très ancien, la propension des êtres humains à créer des fictions pour rendre compte des réalités qu'ils ne comprennent pas encore. C'est aussi un instrument de réflexion philosophique, comme quand Kant établit que l'existence dans l'univers d'autres consciences rationnelles que les humains est une possibilité, et que ça le conduit à réfléchir au fondement universel de la morale. L'autre, alors il connaît l'introduction, donc ça peut aller, hein. L'autre est relativement récent, c'est la diffusion et le renforcement de croyances en rupture avec les informations disponibles pour construire des versions alternatives de la réalité. C'est-à-dire postuler, par exemple, non seulement que les extraterrestres existent, mais qu'ils sont déjà là, qu'on le saurait si quelqu'un n'avait pas intérêt à nous les cacher. Quelqu'un, c'est le gouvernement, les médias, les multinationales. Mais il serait facile de parler de paranoïa ici, mais ici nous allons réfléchir à l'importance dans nos sociétés des théories du complot et plus largement la pratique des fake news, faits alternatifs, qui nous invite à réfléchir au sens à donner à cette attitude pour voir à qui profitent vraiment les théories du complot. Bon, donc, alors Brandon Sanderson entend un petit peu normalement, donc on va voir si on arrive à faire fonctionner les choses, mais j'espère que s'il y a un remède technique, on le trouvera en cours de route. Bon, alors on va commencer par un. Alors je rappelle du coup que pour ceux qui en auraient besoin, normalement il y a des micros, des écouteurs pour la traduction. Bon. Alors on va commencer par un petit état des lieux des théories du complot. Et je vais commencer par vous demander, à l'un comme à l'autre, quelle est votre théorie... Ah, excusez-moi, je suis un peu perdu, je ne vous ai pas présenté.
I need to talk to the translator.
Yeah, do that.
I can hear you, but it's really, really soft. So it's not the wrong channel, it's just really, really soft. I think it's probably the headphones being kind of cheap.
Donc je pense qu'une majorité de gens ici comprend l'anglais. Ok, donc parfait, nous allons pouvoir commencer. Alors je présente nos invités, Laura Fernandez, donc, qui est une écrivaine espagnole, alors catalane aussi, hein, qui a écrit plusieurs romans qui pratiquent l'absurde, en fait. Hein, ce sont des romans joyeusement absurdes, le plus récent étant Conerland, et avant cela, il y avait eu La Chica Zombie, donc que vous retrouverez sans peine à la librairie, et qui est également critique littéraire et journaliste, critique littéraire et musicale à El País. Quant à Brandon Sanderson, on le présente maintenant, on ne le présente plus tout à fait, hein, puisque c'est un auteur de très nombreux cycles de fantasy connus de façon internationale, et dont les cycles les plus connus sont celui des Fils des Brumes et celui des Archives de Rochard. De toute façon, je crois que vous le connaissez bien, et c'est pour ça aussi que vous êtes là. Donc, passons maintenant, passons maintenant à notre question, c'est-à-dire les théories du complot. Alors, y a-t-il, et quelle est-elle, une théorie du complot qui aurait votre préférence, que vous trouvez la plus intéressante pour une raison ou une autre? soit qu'elle soit la plus amusante à vos yeux, soit qu'elle ait une forme de pertinence. Pour commencer à poser un petit peu les choses en partant d'exemples. Alors, Laura, peut-être.
Hola. Mi teoría de la conspiración favorita es evidentemente Área 51, la de los extraterrestres, porque hace poco, además vi un documental sobre el asunto que todavía era más absurdo, o sea, entroncaba un poco con todo mi universo, porque decían que no ya que fuese mentira, todo lo de la, o sea, le daban la vuelta a todo, no decían que lo de los marcianos se lo hubiesen inventado porque coincidía con la Guerra Fría, etcétera, sino al contrario, que la Guerra Fría había sido una cortina de humo para tapar Área 51. A mí esa teoría de la conspiración me parece maravillosa pensar que era justo lo contrario, ¿no? Eso por un lado, esta sería mi favorita.
Alors, pour Laura, sa théorie de la conspiration favorite, de complot, c'est celle de Area 51, Area 51, celle des extraterrestres, parce que ça a un lien avec son univers. Et aussi, elle rappelle qu'elle avait un documentaire très intéressant qui, au lieu de dire que les extraterrestres et les martiens... C'était inventé pour cacher la guerre froide. Et là, c'était au contraire. C'était que la guerre froide, en fait, c'était un phénomène pour cacher les martiens et toute cette histoire autour d'eux.
London.
So, I don't believe in a lot of the very, very weird ones, right? Though they're fun to talk about. The whole reptilian thing just makes me laugh. But if you want ones I actually believe in, basically anything I hear about the American government, not 911 or something like that, not the things like that, but every time I hear, you know, they're secretly spying on you this way, I used to be really skeptical of that stuff, and then my skepticism has been eroded by certain whistleblowers and facts and things, and so these days, if someone says, you know, the American government's probably doing this, there's a part of me that says, I wouldn't put it past them.
Oui, personnellement, les reptiliens sont une de mes préférées, puisque ça suppose tout de même qu'une espèce entièrement différente coexiste avec nous depuis la nuit des temps, en fait. Donc, ce qui est quand même une théorie du complot qui remonte à extrêmement longtemps. Mais effectivement, lorsqu'elle est appliquée au gouvernement américain, ça devient encore plus jouissif. On va maintenant tenter un peu de décrypter la logique de ces théories du complot et inversement, de voir dans quelle mesure elles peuvent correspondre à une forme de décryptage justement du monde, une façon de percevoir le monde. Alors, je rebondis immédiatement sur ce que Brandon Sanderson vient d'indiquer, c'est justement ce scepticisme qui peut disparaître lorsqu'on voit un ensemble de choses, c'est-à-dire que finalement, dans la logique des théories du complot, à la source de toute explication de ce type, il peut y avoir des faits effectifs. Donc, dans quelle mesure y a-t-il des graines de vérité, des éléments au départ tout à fait plausibles dans un certain nombre de théories du complot?
Oh boy, you know, it's a little hard and in some ways a little dangerous to talk about this, right? Because there are certain really damaging conspiracy theories that I don't want to give any weight to whatsoever, right? Like when we've had some recent ones in America where litigation has happened because people are claiming that certain shootings were staged by the government and that certain parents were actors. And these are people who lost their children. And giving any sort of leeway to those sorts of arguments can be really hurtful. At the same time, as writers, we live in this very strange space where we kind of, in a lot of ways, are creating these lies, these stories, because we all love stories. And I think that the kind of root of conspiracy theories is occasionally in truths that get applied in the wrong way. But it's also there's something inside of us that loves the idea of a good story. And a lot of these make really good stories. Beyond that, we all like to be in the know. We like to be the ones with secrets. I can kind of talk about this, like, my books, my epic fantasies are all connected in the same universe. And people ask me where that started. It started when I was a teenager reading books by Anne McCaffrey, and I would start inserting my own characters into her book. And when characters would come on stage that were side characters, I would imagine that's actually Hoyd. He's a secret agent who's going between the worlds. And it made me feel cool in this little way that I had made up something that even the author didn't know about, if that makes any sense, right? I wanted to be part of the story. I wanted to be the one with the secrets. And that's where the origin of characters moving between my worlds came from. And so there's something really deep inside of us that loves the idea of not only there being stories, but us being the ones who know the true secret.
Et donc, il y aurait un lien entre fanfiction et théorie du complot.
Yeah, absolutely. That's a really good connection. That's, I think, where fanfiction comes from.
On y reviendra en partie sur la question de la création et de la théorie du complot un peu plus tard. Mais Laura, t'en prie.
Ah, que yo quería decir que como escritores todo para nosotros tiene un sentido, todo tiene una narrativa y la teoría de la conspiración siempre llena los huecos que faltan, ¿no? Para que esa narrativa tenga sentido. Yo creo que queremos que encaje la teoría de la conspiración en algo que nosotros pensamos y yo creo que eso es en el presente cada vez van a haber más o las hay más también por las redes sociales, es inevitable que no solo, porque uno no quiere tener una opinión sobre algo, sino que quiere una realidad concreta sobre ese algo que encaje en lo que él piensa. Entonces, son peligrosas, pero como escritores, evidentemente, las amamos, como dice Brandon, porque dan un sentido de la narrativa a algo que desconocemos. Y nos gusta mucho más que nos cuenten una historia que no saber... Que no encontrarle sentido a lo que está pasando.
Pour Laura, tous dans la théorie de la conspiration, il y a tous un narratif qui remplit les trous de la réalité, et c'est ça que sa force. Et donc, on a tous un besoin de remplir ces espaces de non-réalité. Pour des histoires. Et donc, ce sont des narratifs intéressants. Ça va nous intéresser. Et c'est ça qu'ils aiment, les écrivains.
I think that's really smart. It reminds me of old school fables and myths, right? Where you would see lightning and the human mind wants an explanation. And we don't have an explanation. You say, well, lightning began because of this story, or this is how cats were created, or this is how... And it's very similar, those old fables and myths, to conspiracy theories, which are kind of like modern myths.
Effectivement, donc il y a une dimension étiologique importante, donc il y a une recherche des causes et de la vérité fondamentale dans la démarche de construction d'une théorie du complot. Mais quelque chose qui me frappe encore dans ce que vous dites l'un comme l'autre, c'est finalement le lien émotionnel très fort. C'est-à-dire que c'est non seulement la recherche d'une cause et potentiellement une sorte de démarche rationnelle, mais c'est aussi en grande partie une démarche émotionnelle, un investissement, une projection. Et cette projection-là, finalement, on peut l'identifier dans les différentes catégories de théorie du complot, c'est-à-dire des théories du complot qui reposent sur la peur et la suspicion, hein, l'idée qu'il y a effectivement, le terme même de complot se trouve là, mais il y a aussi des théories du complot qui viennent clairement du chagrin, de la perte, hein, par exemple l'idée qu'Elvis Presley n'est pas mort. C'est-à-dire l'idée qu'on nous cache sa disparition d'une manière ou d'une autre, mais c'est parce que, d'une certaine façon, le chagrin de la disparition, de la perte, doit être compensé. Une façon de nier, finalement, de refuser certaines choses. Et de ce point de vue-là, donc on a entendu des aspects, disons, positifs, de l'investissement qu'il peut y avoir, mais si on analyse le phénomène dans son ensemble, est-ce que vous diriez que, en un sens, est-ce que vous lui donneriez une... disons, une caractérisation pathologique. Dans quelle mesure y a-t-il ici un symptôme de quelque chose de problématique, éventuellement d'un peu maladif dans nos sociétés contemporaines ? Où feriez-vous le partage par rapport à cette question-là ?
Sobre todo, yo creo que lo hay cuando las teorías de la conspiración provienen del propio gobierno o tienen que ver con el propio gobierno y son peligrosas. Pero luego hay otras, como por ejemplo, estaba pensando, claro, yo siempre me fijo en la parte cómica del asunto y estaba pensando en el Triángulo de las Bermudas y lo que una teoría de la conspiración como el Triángulo de las Bermudas ofrece en realidad para nosotros escritores es un poco de esperanza y la idea de que pueda existir otro mundo. Es decir, ¿a dónde van las cosas que caen en el Triángulo de las Bermudas? Pues a lo mejor van a algún otro lugar que nos gustaría creer que existe. Entonces yo como escritora de fantástico tiendo a fijarme más en estas que no en las de políticas que son realmente peligrosas y que sí que denotan algo, sí que denotan desconfianza en el gobierno. Por ejemplo, evidentemente la del 11 de septiembre denota una desconfianza muy clara en el gobierno de Estados Unidos y en el propio Occidente, en la idea de Occidente como espectáculo y cómo Occidente convierte a veces el espectáculo en un arma contra sí mismo o en un arma que justifica invasiones, guerras, pero sí que dice algo muy profundo de lo que pensamos de nuestro gobierno. Pero yo prefiero fijarme en una como el Triángulo de las Bermudas.
Bon, pour Laura, oui, il y en a des théories, des conspirations qui sont plutôt politiques. Celles qui sont dangereuses sont celles qui sont créées par les gouvernements. Et elle essaie toujours de se concentrer sur la part comique et la part plus ridicule. Et elle donne un exemple comme le triangle des Bermudes. On dit Bermude en français ? Ouais. Ok. Donc, parce que c'est un lieu où les choses disparaissent. Et cette disparition, elle génère un peu d'espoir pour les écrivains, pour tout le monde, qu'il y a un lieu où elles vont apparaître, où elles disparaissent, mais c'est tout un mythe hein, que c'est intéressant. Par contre, les conspirations politiques, elles génèrent beaucoup de mal à de comment dire des cette idée que la société peut être un spectacle qui peut être vu et cette utilisation cette manipulation des théories pour faire un spectacle de notre société elle trouve que c'est très dangereux et donc c'est pour ça qu'elle se concentre dans les parties comiques.
Yeah, I like the funny ones too. I would agree with that. Though kind of digging into your question, is this a disease? I wouldn't go that far. I don't think that human beings should be ashamed of human nature, even when it's something we should change. Because if we create shame about something that is human nature, people will hide it rather than trying to fix it. Right? And so I think identifying why we like to tell ourselves these stories and admitting that we're like this is really helpful. To use an example, many studies have been done about putting a person in a room where there is smoke coming under the door, as if the room next door is burning down. And if they put a person in a room with a bunch of people who are told not to get up and look, that person, no matter who it is much more likely to just sit there and wait and wait and wait. Now, you might say, oh, I wouldn't do that. But yes, I would. We all would. This is human nature. And it's not something to be ashamed of. We, as human beings, we do tend to go with the crowd. We tend to assume that other people have it figured out. And knowing this can help us. If you're willing to confront it and say, you know what, if I am in a situation like that, I need to recognize that my normal instinct might be bad, and I need to be willing to think about it and prepare for it. And the same thing with conspiracy theories. being willing to confront the fact that as a society, we really want to have answers, even when there are no answers. As a society, we really want to be part of knowing the secret, even when there's no secret to be known. If we can learn this without feeling ashamed for the fact that we're acting like people act, I think we're much more likely to be able to get over these things in a very reasonable and emotionally satisfying and safe way, as opposed to hiding them and finding other people who are hiding the same thing and then letting that kind of grow and become something that becomes very dangerous, where the parents of children are accused of being actors or things like this.
Alors justement, donc il y a une séparation là intéressante qui vient d'être proposée, c'est la séparation entre, disons, la démarche individuelle et le rapport individuel à la théorie du complot qui effectivement correspond, on commence à en avoir l'idée là dans cette conversation, à une démarche intellectuelle qui est finalement du côté de la connaissance, même si ça peut toucher à des domaines irrationnels. L'aspect pathologique auquel je faisais allusion, c'était plutôt à l'échelle de la société, c'est-à-dire maladie de la société, maladie du corps social, et potentiellement l'instrumentalisation, c'est un peu ce que Laura évoquait, là, la possibilité qu'il y ait une instrumentalisation de certains récits, de certaines manières de présenter les choses, de façon à orienter finalement ce qui finalement est une méta-théorie du complot, c'est-à-dire l'idée que des théories du complot sont employées par un complot. Bon, mais ceci étant, ça pose la question du rapport à la vérité. C'est-à-dire que finalement, effectivement, sans doute que évacuer la chose en simplement se disant que certaines personnes sont tout simplement ne pensent pas correctement, seraient malades, c'est évacuer le fait que, eh bien, justement, il y a un effet d'entraînement qui est un effet social. Et alors, de ce point de vue-là, y a-t-il des, est-ce que vous avez le sentiment que, pour le dire vite, la logique de l'Internet, la logique de la diffusion de l'information telle qu'elle se compose aujourd'hui par différentes bulles de filtre, différents niveaux de filtrage d'information, est-ce que la tendance actuelle vous semble aller dans le, enfin, est-ce qu'il vous semble justement possible de contrôler ce type de choses, le contrôler au sens d'établir un dialogue avec les personnes qui ont ce type de, enfin, ont des démarches de ce type. Encore une fois, sans les stigmatiser spécifiquement, mais en disant justement dans quelle mesure est-ce qu'il est actuellement possible d'obtenir une information et d'atteindre des gens qui ont une information problématique.
Je crois que lo que pasa es que ya no hay información propiamente dicha, sino que hay opiniones y hay muchas opiniones, hay muchas voces. Y uno siempre tiende a creer las voces afines a él, obviamente, y las creerá antes que a la prensa. Yo como periodista veo el acoso y derribo constante que se hace contra los medios tradicionales desde las redes sociales, sin ser conscientes todos estos que hacen el acoso y derribo, de que si se acaban los medios tradicionales estamos en una completa oscuridad en el que todo son opiniones y en el que no hay realidades. Hay un dicho famoso que dice, todo el mundo tiene derecho a una opinión, pero no todo el mundo tiene derecho a su propia realidad. Y yo creo que hoy en día vivimos en un mundo de realidades múltiples, muy peligroso, en el que estas realidades múltiples, que no sé si llamarlo mercado o no sé cómo llamarlo, están intentando destruir las únicas voces autorizadas que teníamos, con lo cual todas esas teorías desde la conspiración se van a atomizar, va a haber muchísimas más y van a estar en todas partes. Y eso es realmente muy peligroso. O sea, yo vengo de España, yo en una de mis novelas, primera novela, Bienvenidos a Welcome, si quieres paro y luego sigo, aparece una teoría de la conspiración de una forma indirecta, yo ni siquiera era consciente que la estaba escribiendo, porque en aquel momento en mi país hubo un atentado yihadista muy grande en unos trenes de cercanías. Y el gobierno, porque al día siguiente se celebraban elecciones, insistió en sus propios medios de que el atentado era cosa de ETA, que era un grupo terrorista que teníamos en España, cuando no era cierto. Entonces, ahí, el hecho de que el periódico, ese periódico en concreto, que además era el periódico al que yo trabajaba, el diario El Mundo, continuó casi 2 años sosteniendo esa mentira, en España en concreto, hizo que perdiese toda credibilidad la prensa. Y a eso se sumó el auge de las redes sociales Y en mi novela, de forma cómica, aparece un accidente con una nave espacial en la que muere muchísima gente y se dice que toda esa gente va a ir a protagonizar una serie de televisión en Estados Unidos y que pueden estar felices sus familiares. Y yo, sin ser consciente, estaba imitando lo que estaba pasando en el mundo real. Pero bueno, insisto en que es muy peligroso y deberíamos tener alguna voz autorizada.
Bueno, pour Laura, le problème pour elle, c'est que aujourd'hui, il y a moins d'informations et il y a beaucoup d'opinions. C'est-à-dire que normalement, on cherche on fait plus attention aux opinions qui sont plus proches des nôtres et donc on cherche pas forcément à entendre différents points de vue. Et elle dit que les réseaux sociaux peuvent être un peu dangereux dans ce sens, parce que tout ce qu'on entend, c'est des raisonnements, des opinions, et pas forcément des informations. Après, toutes ces réalités, elle cite un exemple d'une expression qui existe en Espagne, qui dit nous avons tous le droit à avoir des opinions, mais nous n'avons pas tous le droit à avoir une réalité. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'elle dit que toute cette réalité sont un peu comme un marché. Et c'est ça le danger. Après, elle cite un autre exemple qui s'est passé en Espagne. Il y a eu un attentat terroriste dans une station de train. Et le gouvernement, et notamment un journal, a dit que c'était un attentat de ETA, le groupe terroriste basque. Et ils ont poursuivi cette mensonge pendant 2 ans. Et ça a enlevé toute la crédibilité à cette journal. Et dans son livre, elle crée une situation, une théorie des conspirations qui se rassemble un peu à cette situation. Et à ce moment-là, elle s'avait pas rendu compte. C'est un groupe de personnages qui font un voyage, qui ont un accident, et elle dit qu'ils vont tous participer dans une série américaine. Et encore, qu'elle dit, c'est que c'est le danger d'aujourd'hui, c'est ne pas avoir de l'information et plutôt des opinions qui sont créées dans les réseaux sociaux.
Yeah, the internet is kind of new still, and social media particularly new. And I don't think we as a society have really figured out what to do with it yet. All of this talk, when I was thinking about this panel in particular, I was thinking about the relationship you said between truth and what gets presented as truth. And I think part of it is we don't necessarily know what truth is. This is part of being human beings, is we're trying to figure it out. We're trying to reach for it. And I do think that healthy discussion is how we come to truth. And so it's very hard for us to decide which opinions do we just completely ignore and which opinions do we allow to argue with us if you sincerely believe that we arrive at truth, as I do, through people who are discussing and talking about it and things like this. It becomes a really difficult question for which I don't have the answer. Though I think one of the reasons that we write, that I write at least, is to try and figure that out. And in some ways, fiction exists in the same space as conspiracy theories, except it's not a conspiracy theory because we all know it's not true, right? We all know, I hope, that Luke Skywalker did not actually live a long time ago in a galaxy far, far away. But this sort of story works as a replacement myth. Now that we have scientific fact to tell us why lightning strikes, there's still something in us that wants to be part of one of these stories. And so we look to fiction. And it's kind of our job as creators of fiction to be that replacement, which, as you think about it, at least I think about it, is kind of terrifying. It's kind of overwhelming to realize that that is what we are in our modern society. And that's our purpose and our place. And as Neil Gaiman once said, you know, you have to be very careful to use that power for good, because it's very dangerous if you start using it for other purposes.
Avec un grand pouvoir viennent de grandes responsabilités, comme dit un autre philosophe. Dans les éléments que vous avez apportés, il y a effectivement cette question de la liberté d'opinion, de l'ouverture d'esprit qui permet le dialogue, et en même temps le danger justement de la fermeture. C'est-à-dire l'exemple que donnait Laura d'une tentative d'imposer une interprétation qu'on sait fausse dans le débat public, ça devient effectivement problématique. Mais là, on sort de la logique de la théorie du complot, puisque la théorie du complot, c'est par définition quelque chose qui, en quelque sorte, n'a pas de hiérarchie. Il n'y a pas quelqu'un qui, en fait, la commande au départ. C'est quelque chose que les gens choisissent de croire et auquel ils ajoutent leurs propres interprétations. Et alors, dans les éléments que vous avez aussi commencé à aborder, on arrive un petit peu au dernier point que je voulais aborder avant la question de la création, même si on l'a déjà bien ouvert cette question aussi, c'est finalement lorsque les théories du complot deviennent non plus simplement des questions de ce que la société, la façon dont la société est organisée par exemple, mais quand ça devient véritablement métaphysique. C'est-à-dire, je pense aux théories de type la Terre qui est plate ou même des théories du complot qui vont se projeter dans l'avenir, c'est-à-dire qui vont envisager la possibilité d'une apocalypse, une apocalypse zombie éventuellement, mais ou une apocalypse d'un autre type, et d'une manière générale, ou également des théories complètement paranoïaque d'un point de vue ontologique, même si passionnante, comme l'idée de vivre dans une simulation, vivre dans un univers de type Matrix, l'idée qu'on ne soit pas en train de contrôler notre vie. Et alors, sans spécifiquement vous imposer tel ou tel exemple, est-ce que vous avez des éléments d'interprétation sur l'attrait de ce type de, finalement, de saut dans le radicalement nouveau, dans l'idée qu'on y croit, pas simplement dans l'idée de la fiction, même si la fiction a sa part?
Well, I'm just going to quickly mention, you asked for favorite conspiracy theories earlier. You mentioned flat earthers. I have a conspiracy theory that there are no flat earth conspiracy theorists, that they are all trolls. I could be wrong, but that's my theory, that everyone who claims to believe that is actually joking with us.
Un peu comme pour le spaghetti monster, en fait.
Yeah. All right.
If you like.
Yeah. I mean, this is such a deep and difficult topic to pick apart, right? And, you know, the responsibility that we have as members of society and the, you know, you mentioned conspiracy theories not being centrally organized, that there's not... Sometimes I don't think that's true. I think there are at least people who are perpetuating them because it gets them power. And it gets them authority. And those people, I think, are the most dangerous. The most dangerous are the people who are basically the Brandon Sandersons, but who are presenting what they're saying as true, right? And those people who have learned to use all the powers for the wrong reasons. And I think this is really dangerous, because learning to tell a really believable, interesting, powerful story is a skill you can learn in our society. I teach people how to do it, right? That's part of my job. And yet, people can take those same very principles and can use them for these means of propping themselves up as someone who is creating this conspiracy theory, then selling ideas to their followers, and it can go really, really poorly for everyone. And so it's this very strange thing where we often talk about, you know, people who are selling cough medicine might be dangerously selling it to meth addicts or things like this. I'm doing the same thing, except what I'm selling is the ability to lie to people really well.
Laura.
En mi caso, yo me doy cuenta que en esa novela, la primera, Bienvenidos a Welcome, está llena de pequeñas teorías de la conspiración y en realidad son... ejemplos, parábolas, desde un punto de vista absurdo siempre, de lo mucho que nos mienten cada día. Por ejemplo, una muy exagerada que aparece en ese libro es que yo trabajé para una revista de adolescentes, que aquí debéis tener las vuestras, allí se llamaba Super Pop, y teníamos una serie de personajes chicos muy populares que iban envejeciendo con los años, pero para las chicas de esa revista, que tenían un target de edad de los 8 a los 14 años, esos chicos tenían siempre la misma edad, seguían sin tener ninguna novia, tenían una vida que, prácticamente la revista les decía constantemente que les estaban esperando a ellas, ¿no? Entonces, en mi novela aparece una teoría de la conspiración así, pero con un chico que lleva más de 100 años muerto, con el que se sigue jugando como si fuese una imagen para atraer a las lectoras, en este caso, o lectores, que les guste ese chico a la revista. O sea, yo sobre todo soy muy crítica, sin darme cuenta utilizo la ficción constantemente para ser muy crítica con el periodismo, que muchas veces genera estas teorías de la conspiración, o sobre todo genera otras realidades que no tienen nada que ver con la nuestra, genera personajes. O sea, yo he virado hacia el absurdo, mi vida, toda mi obra se fue al absurdo cuando entré a trabajar en esa revista para adolescentes, porque me di cuenta que todo en realidad era mentira, todo.
Entonces, pour Laura, son roman Bienvenidos a Welcome, je pense qu'il n'est pas traduit en français. Non. Elle se rend compte qu'il est rempli de théories de conspiration, de complot. Et il y a une qui est un peu, qu'elle a très exagérée dans le livre, mais qui en fait, ça rapporte à une période vraie de sa vie où elle a travaillé dans une publication pour adolescents de 8 à 14 ans. Et donc, il y avait un groupe de garçons qui avaient toujours le même âge, qui n'avaient jamais de copines pour séduire un peu ce public des filles qui étaient intéressées. Et dans sa théorie, il y a un garçon qui a vécu plus de 100 ans, en fait, pour nourrir cet besoin d'attention, comme s'il était en fait le copain, le fiancé de toutes ces filles qui lisaient cette revue. Et donc ce qu'elle dit, c'est que toutes les théories des conspirations génèrent d'autres réalités et d'autres personnages. Et dans son œuvre, elle a toujours travaillé sur l'absurde. Et c'est ça qui l'intéresse. Et c'est là cet univers où tout est un mensonge et tout est possible.
Merci. Alors, du coup, ça nous entraîne vers la question suivante que j'avais en réserve, qui était plus spécifiquement, quel est votre rapport aux théories du complot ? Et pour commencer très, dans la création, pour commencer très, très simplement, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'utiliser une théorie du complot ? On a déjà un début de réponse là-dessus, ou d'en créer une dans le cadre d'une de vos fictions ? Et que pensez-vous plus largement du lien qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut intégrer une théorie du complot dans une fiction? On a bien compris qu'il fallait le faire avec précaution déjà.
Yo a través del periodismo, para mí es una herramienta muy útil porque en realidad el periodista es el observador, pero es el que recrea constantemente la realidad y es muy fácil. Introducir una teoría de la conspiración, una historia a través de un periódico o una revista, porque son ellos al final los que tienen como más voz que el resto. Siempre digo que si no te gusta la realidad en la que vives, cambia de periódico y es algo que creo fervientemente. Entonces, en mi caso, y el hecho por el que las pongo es para evidenciarlo. O sea, cuando yo entré a trabajar en esta revista de adolescentes me di cuenta que muchas cosas en las que había creído eran mentira, y sobre todo respecto al periodismo, y no hago más que evidenciarlo una y otra vez, sobre todo respecto a mi profesión, en las novelas que escribo. Sobre el uso que hago de ellas es para despertar un poco, decir, mirad alrededor, todo lo que os están contando puede ser mentira. Es lo único que aprendes en la Universidad de Periodismo, es juzga en función de... Después de leer 20 periódicos, si hace falta, porque la realidad no es ni la de uno ni la de otro, es una mezcla de todos. No te quedes nunca con una sola voz.
Uh, Pour Laura, son approche à la théorie des conspirations, ça vient du journalisme, parce qu'elle travaille dans différentes publications dans son pays. Et elle dit qu'à chaque fois qu'un journaliste a besoin d'écrire un événement, elle va toujours recréer cette réalité. Et donc, c'est cette récréation constante qu'elle dit que forment des théories des conspirations. Et elle dit toujours, si on n'aime pas la réalité dont on vit, il faut changer de journal. Parce qu'il y en a à voir toujours d'autres versions qui sont plus conformes avec ce qu'on pense. Et elle a eu cette perception quand elle travaillait dans cette revue pour adolescents que, en fait, il n'y a pas besoin de grand chose pour créer une mensonge, une réalité parallèle. Et aussi à l'école à l'université qu'on a étudié, qu'il faut lire au moins 20-30 versions d'une même rapport pour avoir une vision un peu informé et plus réel de cette histoire.
I use conspiracy theories all the time in my books. This is partially because, and we've kind of talked about it here, they're really fun, right? Like most of these, the title of the panel is "I Want to Believe," and it's way cooler to imagine that there are reptile monsters ruling the world wearing human faces. That's so much cooler. That's so much more awesome than the reality. It's so much cooler to imagine that there are UFOs that crashed at Area 51 instead of them just testing some stealth technology, which is what they were doing. But it's cooler if there are aliens. I use it all the time. In my serious fiction, like the Stormlight Archive, there are tons of conspiracies happening. And, you know, the thing about them is, you asked earlier, are they real? I mean, there have been real conspiracies, right? Caesar, one of the most famous rulers in Western civilization, was murdered by a conspiracy. If you study it, there are so many people who knew about it, it's like remarkable that it actually happened. But you know, these sorts of things do happen. So people are like, well, if Caesar could get murdered by a conspiracy, what about JFK? And so your brain says it's happened before, it could happen again. But we really like these. I built an entire book series around the silliest conspiracy I could think of. If you guys haven't read them, I was trying to think of, because I think they're fun, and I'm like, what is the most ridiculous, craziest conspiracy theory I could think of? And I thought, maybe what if librarians ruled the world, right? They have all the information, they know everything. And I imagine this like nice elderly librarian behind the counter with a battle axe hidden underneath. And if you asked for the wrong book, she'd get it out and chop your head off or something. It was just really amusing to me. And that's where the Alcatraz series came from. But I mean, the truth of it is they are a lot of fun. They're fun because they make our world seem less mundane. They're fun because we get to be part of a secret. They're fun because it's more exciting. And I would say they also generally have the myth, they play into this idea that a few people can change the world, which is a bit of a myth, right? If we really want to change the world, if we really want to do something about climate change, right? We can't just be saved by Elon Musk buying a million trees. We, as an entire society, as an entire global society, are going to need to make a concerted effort to change the way that we act. That is super hard. The myth that one person could swoop in and save it is a comforting myth. And I think that's part of why conspiracy theories are so popular. And actually, it's part of why fantasy as a genre is so popular, is because we and fantasy kind of go back to a time where a small group of people could meaningfully change the world. We tell stories about, you know, an ordinary person who can get a magic ring and throw it in a hole and it saves the world. Or, you know, by the power of our parents' love, we can defeat Voldemort. I mean, those sorts of things are really inspiring. And there's a truth to them. We, making a decision ourselves, can make our lives better. We can make the lives of people around us better. But The truth is that if we really want to make big changes in the world, it's going to take all of us, and that's hard. And conspiracy theories kind of play into the idea that, oh, no matter what you do, you couldn't change the world. Only these special people could.
Alors, je vous aurais bien demandé un petit peu dans quelle mesure la fiction et la théorie du complot fonctionnent de la même manière, mais j'aimerais tout de même pouvoir donner la parole au public. Et en un sens, vous avez déjà bien répondu à cette question au fur et à mesure. Donc, je vais me priver de cette dernière question et je vais ouvrir la parole au public. On a le temps, je pense, pour 3-4 questions au total parce que ça prend du temps. Oui, pardon. Ah, on peut pas vraiment faire. D'accord, on peut pas accéder. En fait, vous êtes trop nombreux. Bon, d'accord, c'est un petit peu décevant. Alors je repose ma question. Du coup, allons-y. Pouvons-nous repartir un petit peu de l'idée de la mise en parallèle entre théorie du complot comme production mythique quasiment et la question de la création en littérature. Dans quelle mesure est-ce que ça puise dans les mêmes choses, dans quelle mesure ça peut être mis en parallèle et où s'arrête la distance, pas seulement sur des questions éthiques, puisqu'on en a parlé, mais dans quelle mesure y a-t-il des parallèles ou une séparation à faire entre les deux démarches?
Between fiction and conspiracy theory?
Yes.
I think being open about the fact that you are telling a story is a very big distinction, certainly. Like, I like to joke that storytelling is lying, but it's not a lie if we all agree that it's, you know, like, it's something else, it's something different. And it does have a power. It's interesting. Telling stories is a little like the placebo effect. You guys know the placebo effect. This is if you take, you know, a fake drug, but believe it will do something, it has an effect on you. Do you know that if you know it's a placebo and you take it, it still will work? The placebo effect works if you know it's a placebo, which is one of the things that kind of broke my brain when I realized it. And that's what fiction is. Fiction is, you know, it can still work. It can still be just as fun if you know, because the human brain is so amazing and so baffling in many ways, that I think that line of being up front is really important. But I also think there is a certain responsibility that we have when we're writing to be, we can accidentally lend credence to things, even in fiction, that we don't intend to. And we have to be aware of that possibility. And when it's pointed out to us, we have to be willing to say, maybe I should change the way I tell stories.
Yo creo que es muy distinto la ficción de la teoría de la conspiración. La ficción, para empezar, es una historia completa que tú imaginas desde el principio, puede provenir de algún lugar o no. En el caso nuestro, a lo mejor solo viene de nuestra imaginación, las cosas que hemos leído, sí, también lo que vivimos cada día, pero de forma menos completa. En cambio, la teoría de la conspiración siempre parte como para... Es algo muy colectivo y siempre pretende convencer, digamos. Pretende ser una especie de arma o un movimiento hacia algún lugar, pretende que te posiciones. En la ficción no hay ninguna posición, es todo lo contrario, es estar abierto a que te cuenten una historia y disfrutar de esa historia sin ninguna pretensión de que esa historia sea una verdad. En cambio, la teoría de la conspiración pretende obligarte o convencerte, argumentarte que eso que te está contando es cierto. Entonces, yo creo que la distinción, o sea, las dos son narrativa, es una forma narrativa, unas más o menos fantasiosas que otras, pero una pretende tener poder sobre ti o dirigirte y la otra no, la otra solo pretende o ayudarte o que lo pases bien o formarte como persona o estar ahí. A veces los libros son amigos. La teoría de la conspiración no es una buena amiga.
Pour Laura, elle croit que c'est très différent, la théorie de la conspiration et la fiction. D'un point de vue, les théories de la conspiration sont toujours des parties d'histoire, au lieu que la fiction, c'est toujours un univers plus complet. Et donc c'est pour là qu'il a dit que c'est une des différences. L'autre, c'est que la fiction, elle nous donne la liberté de choisir ce qu'on veut et comment on le comprend, cette réalité qui nous est donnée. Par contre, les théories des conspirations, elles sont faites pour nous convaincre et pour nous obliger à prendre une position. Et c'est pour ça, elle pense que c'est la deuxième, la force de la narrative, c'est celle-là de ne pas nous forcer et de nous laisser la liberté de choisir ce qu'on veut ou simplement de nous amuser, de nous accompagner.
Donc il y a une sorte de quand même de parallèle en termes de fonction qu'on peut trouver dans les deux, c'est-à-dire que la fonction de consolation et d'explication, de soutien qu'on peut trouver, qu'on a évoqué pour la théorie du complot, c'est quelque chose qui effectivement est à l'œuvre dans la fiction, cet effet placebo qui a été mentionné tout à l'heure, enfin l'effet d'entraînement de la fiction. Est-ce que de ce point de vue-là, est-ce qu'on peut envisager, même si je m'excuse de revenir sur le caractère un peu pathologique de la question, hein, mais est-ce qu'on peut envisager une situation où la fiction peut servir d'antidote, en quelque sorte, à une théorie du complot problématique? Là, évidemment, on a bien saisi qu'il y avait des théories du complot qui, finalement, étaient de l'ordre de simplement de la vie de l'esprit, mais il y a des théories du complot qui peuvent être problématiques. Et dans quelle mesure est-ce que la fiction, disons, peut avoir un rôle à jouer de ce point de vue-là, ou est-ce que, tout simplement, ce n'est pas son domaine?
Oh, I'm sorry. Okay.
J'en profite pour remercier Ivania West, hein, qui fait la traduction, donc y compris maintenant là pour Brandon Sanderson.
Oh yeah, I totally think fiction can be an antidote, right? Like I talked about earlier, I think part of the job of fiction is to replace some of these things, because we as human beings love stories. We're attracted to stories. And I think good fiction can replace this. And you see this, right? Like people, if you compare the people who band together about some conspiracy theory, they will act very similar to the Star Trek fans who band together to talk about Star Trek, or to find out the secrets of the Cosmere, or to talk about the MCU. And I think this is healthy behavior. As long as we understand and we are aware of where it can go wrong, I think that it is healthy behavior.
Laura.
Estoy completamente de acuerdo con él. Creo que la ficción puede ofrecerte una verdad propia que no te haga tomar parte de nada y que a la vez te muestre lo absurdo que es tener que tomar parte de algo.
Laura, elle est complètement d'accord et elle pense que la vraie force de la fiction, c'est ça, c'est une chose qui t'oblige pas à prendre une position et qui te permet juste de profiter de cet absurde, si c'est le cas.
Merci. Alors, je vais remercier donc Ivania West pour ses traductions. Et Laura Fernandez et Brandon Sanderson pour leur réponse éclairante. Et vous pouvez évidemment les retrouver tous les deux en dédicace à la librairie et dans la suite du festival. Je suppose que vous avez encore des tables rondes. Vous pourrez les retrouver. Voilà, merci à vous et désolé donc pour l'organisation. Vous voyez bien que c'est très populaire. Donc merci de partir par ce côté-là. Voilà, pour libérer la place pour les personnes qui veulent suivre la table ronde suivante.